Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de la campagne des régionales. Nous sommes aujourd'hui au Creusot, Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes installés dans le centre qui fait un peu plus de 20 000 habitants. J'ai en face de moi la grande cheminée industrielle, l'un des symboles de la ville, les hangars de Framatome, d'ArcelorMittal et les panneaux électoraux pour les régionales au bord de la rue. Et d'ici, on mesure bien les enjeux nationaux de l'élection de dimanche. La montée en force du Rassemblement national, le désintérêt pour la politique, les divisions de la gauche dans cette terre industrielle. 7 candidats, ils seront à notre micro et parole d'électeurs. La politique vue du terrain au cœur de la France. On commence dans un instant. D'abord, les autres titres de l'actualité, c'est avec vous Olivier Bénis.
Et on reviendra évidemment sur la fin du port du masque en extérieur avec des visages qui prennent l'air et qui sourient ce matin et sur l'épreuve de philo du bac. Épreuve un peu particulière cette année puisque les élèves pouvaient choisir de privilégier leur moyenne de contrôle continu. Nous irons également au procès Big Malion au tribunal de Paris où les deux procureurs ont entamé des réquisitions qui vont durer plusieurs heures, Bruno.
À la fin de ce 13-14, l'appétit féroce de la directrice de l'Arc, Cécile Bertin, la scène nationale où nous sommes installés pour cette émission. Appétit alors que les spectacles enfin reprennent peu à peu. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Et ici au Creusot, la mairie est à gauche depuis 44 ans. Nous sommes en Saône-et-Loire, le département d'Arnaud Montebourg, à côté de la Nièvre de Pierre Bérégovoy. L'industrie en Bourgogne-Franche-Comté représente 17% des emplois. C'est la première région de France de ce point de vue. Mais la gauche sait-elle encore parler aux salariés et ouvriers de l'industrie, aux habitants des campagnes aussi que sillonnait jadis François Mitterrand dans la Nièvre? Le Rassemblement national est plus qu'en embuscade avant ce premier tour des régionales. Il est passé tout près d'une victoire il y a 6 ans. Il est en tête des intentions de vote cette année. Et c'est dans la Nièvre que commence notre tableau politique de la région et ses échos dans tout le pays à la veille des élections. Corbigny, 1600 habitants et 2 visages en particulier sur les panneaux électoraux.
Sur son affiche de campagne, Julien Oudoul est côte à côte avec Marine Le Pen. Comme un symbole pour Thierry, les grands thèmes, sécurité, immigration, sont des enjeux nationaux.
Peut-être qu'il y a un manque de sécurité ici, moi je le vois pas, c'est calme et tout. Mais moi ce que je vois c'est au niveau national. Vous vous rendez compte, s'il y a une immigration, il y a 500 000 personnes qui viennent et qu'ils n'arrivent pas à les foutre dans les grandes villes et les mettre dans les petits villages, il y aurait autant d'immigrés que d'habitants ici. Voilà, moi j'ai peur de ça.
Le Rassemblement national met aussi en avant l'emploi et un rééquilibrage entre villes et campagnes. Sur les anciennes terres de gauche, bastion de François Mitterrand, ce sont les voix des zones rurales qui feront sans doute la différence. Ici, on a longtemps voté socialiste, explique Pierre, jusqu'à 2011 et la désillusion.
On a eu le Sénat à gauche, le Parlement à gauche. Tout était rose. Socialiste, rose. Et qu'est-ce qu'on a eu? Rien. Alors faut pas demander aux gens qui croient encore aux politiques. Le Rassemblement national, parce qu'il a jamais été au pouvoir, il va jouer là-dessus. Mais est-ce qu'il est capable de faire des choses? On verra.
Et pour évaluer le poids du Rassemblement national, il faudra aussi mesurer l'abstention. Lors des dernières régionales, en 2015, dans la Nièvre, près d'un électeur sur deux n'est pas allé voter.
Un reportage Antoine Gignot que j'avais oublié de citer en présentation. Bonjour Benoît Montagioni.
Bonjour Bruno.
Vous suivez la campagne pour le journal de Saône-et-Loire. Vous nous accompagnerez tout au long de cette émission. Le RN en tête des intentions de vote donc. Mais Antoine Gignot le disait, une autre donnée clé dimanche, ici comme ailleurs, ce sera l'abstention.
Bah oui, c'est l'abstention, évidemment. On voit bien, on sent que y a un désintérêt pour la chose politique en général, pour le personnel politique. On voit que même les militants qui font la campagne ne sont pas si nombreux. Les meetings qui sont souvent numériques, il n'y a pas grand monde. Et puis, on est en Bourgogne-Franche-Comté, on n'a pas de Pécresse, on n'a pas de Bertrand, on n'a pas de ministre sur les listes. Donc, il n'y a pas forcément dans les esprits cette campagne. Et celui qui saura mobiliser ses militants au premier tour et ses électeurs va vraiment avoir une grosse longueur d'avance.
Voilà pour cette première photo politique de la Bourgogne-Franche-Comté qui a des échos dans toute la France. C'est donc la région que nous avons choisie pour illustrer les grands thèmes qui traversent ces régionales. Les 7 candidats seront au micro de France Inter d'ici à 14h. Quelles mesures pour les jeunes, 1 sur 5 en situation de précarité? Quelle politique de transport? Certains coins sont particulièrement mal desservis. Quelle réponse à la désindustrialisation? Rendez-vous dans un quart d'heure. D'abord, Olivier, les autres titres de l'actualité que vous développez à Paris.
Et on commence donc avec ce grand ouf de soulagement partout en France. Et pour cause, on n'a plus le souffle coupé par un masque. Depuis ce matin, ce petit accessoire qui commençait à fusionner avec notre menton n'est plus obligatoire à l'extérieur. Décision annoncée par Jean Castex hier, en plus de la fin du couvre-feu dimanche prochain. 2 petits bonheurs qu'on doit à l'amélioration de la situation sanitaire, plus rapide que prévu, selon le Premier ministre. Alors forcément, ce matin, tout le monde se réjouissait de revoir des nez, des bouches et un nombre de sourires rarement atteints ces derniers mois.
C'est vrai que ça fait du bien, surtout qu'il fait bon aujourd'hui.
C'est prodigieux, là. On en profite pour prendre de grandes respirations.
Comme j'étais pas très sûre de si c'était permis ou pas, j'ai quand même gardé le masque à la main, au cas où ce soit obligatoire.
Quand je suis sortie, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas de masque. Et j'ai reçu aussi des messages d'amis qui m'ont dit « Liberté, nous n'avons plus de masque, mais sinon, non, moi je prenais le masque ce matin. »
Est-ce que vous avez compris les nouvelles règles ?
Ah, tout à fait, oui. Donc on peut enlever le masque à l'extérieur. Cependant, on doit les mettre quand on fait des files d'attente, dans les magasins ou enfin dans les lieux publics où il y a du monde, quoi.
On l'attendait depuis longtemps, donc ça fait du bien. Mais j'avoue que j'avais déjà commencé un petit peu ces derniers jours avec les fortes chaleurs. Hein. C'était difficile de tenir avec.
Vous, votre réflexe, c'est quand vous m'avez vu, vous avez voulu remettre votre masque.
Oui, c'est pour vous protéger. Je ne suis pas encore vaccinée totalement.
Et vous l'avez gardé ?
Là, c'est provisoire, c'est pour me protéger du soleil.
Micro tendu avec ou sans masque, hein, donc on a le choix maintenant, par Mathilde Dehimi. Et si la vaccination devenait obligatoire pour les soignants, notamment en EHPAD, Olivier Véran a brandi à nouveau cette menace ce matin en lançant un appel solennel aux soignants qui n'ont pas encore été vaccinés afin de les convaincre de franchir le cap. Il y a 60% des adultes français qui ont déjà reçu une injection. Il y a moins de 60% des soignants en EHPAD qui l'ont fait. Ce n'est pas justifiable, estime le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui annonce également dans un tout autre domaine une possible réouverture des discothèques cet été avec des précisions à venir à partir du 21 juin. Le monde de la nuit est en sommeil depuis 15 mois à cause de l'épidémie de Covid.
Et depuis le Creusot à 13h06, Olivier Bénis, j'ai quelques sujets de discussion pour vous. Discuter justement, est-ce renoncer à la violence ? L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ? Ou encore, sommes-nous responsables de l'avenir ?
Alors ce sont des questions qu'on ne se pose pas forcément tous les matins devant la glace, mais les élèves de terminale générale devaient plancher dessus ce matin pour l'épreuve de philosophie du bac. Pour le bac technologique, il fallait se demander s'il est toujours injuste de désobéir aux lois, si savoir c'est ne rien croire ou si la technologie nous libère de la nature. Mais tous se sont posés une autre question, est-ce que ça vaut la peine de passer 4 heures à disserter alors que la note du contrôle continu suffit ? Et la plupart avaient déjà une réponse toute trouvée. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Vous êtes en direct du lycée Montesquieu à Herblay dans le Val d'Oise où beaucoup ont préféré aller prendre l'air rapidement.
Oui, sur les 400 candidats, il n'en restait que quelques-uns dans les salles tout à l'heure à midi quand l'épreuve s'est terminée. Ici, 15% des élèves de la filière générale sont sortis au bout d'1h30 et même 70% de la filière technologique où la philo compte moitié moins. Richard et Inès étaient parmi les premiers à sortir au bout d'1 heure seulement.
Vu que j'ai 13 à l'année et que j'ai pas trop révisé ces derniers temps et qu'on n'a pas pu voir tous les thèmes, je me suis pas compliqué la vie. Et du coup, j'ai pris le sujet qui me semblait le plus simple. J'ai fait une intro, j'ai commencé une première partie, puis du coup je suis parti, je vais rentrer chez moi, je vais profiter.
J'ai fait que l'introduction. Dans ma tête, je me dis j'avais 12 de moyenne. Honnêtement, je me suis pas cassé la tête. J'ai pas essayé.
Il y a aussi un effet de groupe, comme le raconte Hugo.
Dès la fin de la première heure, il y a deux élèves qui sont sortis de la salle, il y avait pas mal de bruit dans les couloirs. Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui jouent avec le contrôle continu. Moi, j'en fais partie, hein. Je vais pas mentir. Ça nous fait venir signer, quoi.
Devant tant de légèreté, les professeurs qui surveillaient sont un peu dépités. Pierre Costa, qui enseigne depuis 37 ans, n'a jamais vu autant d'élèves sortir si vite.
Dès la fin de la première heure, il y a deux élèves qui sont sortis de la salle, il y avait pas mal de bruit dans les couloirs. Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui jouent avec le contrôle continu. Moi, j'en fais partie, hein. Je vais pas mentir.
Ça n'a rien d'étonnant avec ce type de bac, ça c'est évident. Je vois pas pourquoi ils resteraient plus longtemps, ils vont jouer sur un meilleur note, ça c'est classique. Ça. C'est ce qui est devenu le bac, quoi, c'est tout. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était le bac classique, c'est-à-dire ça se voit, ça n'a plus la même valeur.
Cet après-midi, les élèves de première seront plus sérieux. Ils passent le français dans moins d'1 heure à partir de 14h. Et pour eux, pas de contrôle continu. C'est une épreuve pour de vrai, comme ils disent.
Merci beaucoup Sonia Princé et merci à Geoffrey Marianne pour les moyens techniques pour ce direct. Vous avez peut-être eu le sommeil agité la nuit dernière à cause des violents orages qui ont frappé plusieurs départements, même s'ils n'ont a priori pas fait de dégâts majeurs. 17 départements sont toujours en vigilance orange ce jeudi, cette fois plutôt dans le sud-ouest du pays, mais aussi dans le nord où l'on attend de la grêle et des rafales de vent. On en reparlera évidemment à la fin de ce journal avec le point de Météo France. Je n'interfère pas dans cette campagne, c'est ce qu'a assuré Emmanuel Macron ce matin lors d'un déplacement en Picardie, dans le cadre de son Tour de France des territoires. Le chef de l'État jure qu'il n'est pas là pour toucher aux sujets régionaux, mais pour continuer simplement le travail pour la nation et nos compatriotes. Fin de citation. Un point de vue que ne partage pas le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui se disait un peu plus tôt persuadé, lui, qu'Emmanuel Macron est en campagne. Qu'il le reconnaisse, ce sera plus clair et plus respectueux des Français. Elle, en revanche, ne cache pas être en campagne pour les régionales, voire déjà pour la présidentielle. Marine Le Pen est actuellement en région PACA, syndicat pour soutenir publiquement son candidat sur place, Thierry Mariani, qui pourrait bien offrir sa toute première présidence de région au Rassemblement national. Sa présidente a rebondi sur l'inquiétude croissante autour de l'abstention du scrutin à venir. Pour elle, s'il y a un coupable à ce désintérêt des Français pour la campagne, c'est l'exécutif. Écoutez Marine Le Pen sur le marché de Sifour-les-Plages.
La force tranquille, c'est nous, en cette belle journée et ces derniers jours de campagne. J'en appelle évidemment à la mobilisation dans toute la France et je suis frappée de constater que le gouvernement organise l'abstention puisque rien n'a été fait pour informer les Français de cette élection. Aucun clip, aucune information spécifique sur l'élection, sur les procurations. Voilà, donc je pense qu'ils espèrent que l'abstention les sauvera. Je crois qu'ils ont tort.
Propos recueillis par Élodie Forêt. Garde à vue prolongée de 24 heures pour Cédric Jubilard, le mari de Delphine Jubilard. Cette jeune mère de 33 ans, disparue dans le Tarn depuis 6 mois. Sa mère et son beau-père voient eux aussi leur garde à vue prolongée. Tous sont entendus actuellement sur des incohérences dans le récit du mari autour de la disparition de son épouse dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier. C'est un réquisitoire très attendu après quasiment un mois de procès, celui de l'affaire Big Malion, du nom de cette société qui organisait les meetings de campagne du candidat Nicolas Sarkozy en 2012. Ce matin, les deux procureurs ont commencé à égrener les faits reprochés aux 14 prévenus, dont l'ancien président de la République, dans des réquisitions assaisonnées au vitriol, Laurélie Carive.
Dans une démonstration implacable, Vanessa Perret a décortiqué la mécanique qui a mené à la fraude. Cette campagne de 2012, une marée d'inorganisation lance-t-elle. Un budget prévisionnel validé par personne, pas de feuille de route, pas de cahier des charges, pas d'instructions claires. Et pourtant, dans les meetings, 44 au total, il faut que ça pète, comme l'a dit l'un des prévenus. Grue vidéo, écran XXL et prestations haut de gamme. Des trains affrétés depuis toute la France pour les très grands meetings, il en faut toujours plus. Alors, parce que les dépenses s'envolent au mépris des règles, est mis en place un système de fausses factures afin d'imputer 16 millions d'euros à des conventions UMP fictives. 3 autres millions seront tout simplement gommés des comptes de campagne. La procureure adjointe fustige ensuite l'attitude de déni des prévenus durant le procès. Leurs discours, je cite, « figés et plaqués ». Des prévenus qui mentent et dissimulent, qui ont détruit des preuves, tense Vanessa Perret. Elle s'agace de ce pronom impersonnel « on » qu'on a cessé d'entendre à l'audience pour noyer les responsabilités. Alors certes, qui a eu l'idée, qui a ordonné le système, il reste des trous dans le puzzle, concède-t-elle. Pour la représentante du ministère public, la fraude a été décidée au fil de l'eau et de façon collective dans un engrenage douloureux et funeste.
Laurélie Carive au tribunal correctionnel de Paris avec Yvan Turc pour les moyens techniques. 7 ans de prison requis contre Horus, cet ancien agent de la DGSI de 35 ans, jugé pour avoir vendu des informations confidentielles sur le Darknet. La procureure a dénoncé un individu dénoué de sens moral et de scrupules qui a trahi la République par un comportement inqualifiable. Le prévenu assure lui avoir simplement vendu les fameux secrets pour mettre du beurre dans les épinards. Il fournissait tout de même sur demande des données personnelles directement récupérées dans les fichiers de police auxquels il avait accès. Et puis un incendie ce matin en pleine mairie de Cannes. Pas de grandes flammes mais de gros nuages de fumée blanche visibles à bonne distance et qui se sont par endroits répandus sur le port de la ville. L'hôtel de ville a immédiatement été évacué. Aucun blessé n'est à déplorer d'après le maire de Cannes, David Lisnard. Le feu serait parti d'un court-circuit dans un tableau électrique. L'ex-président Laurent Gbagbo, bientôt de retour en Côte d'Ivoire. Il a quitté Bruxelles tout à l'heure, un retour rendu possible par son acquittement dans le procès pour crime contre l'humanité dans lequel il était poursuivi par la justice internationale. Abidjan a également donné son feu vert au nom de la réconciliation nationale. Laurent Gbagbo était exilé à Bruxelles depuis 10 ans, depuis sa défaite à la présidentielle de 2010, qui avait ensuite plongé le pays dans la guerre civile. À Hong Kong, la liberté de la presse ne tient qu'à un fil. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le quotidien Apple Daily, l'un des derniers journaux pro-démocratie de cette région administrative spéciale sur laquelle la Chine resserre régulièrement son emprise. Ce matin, 5 responsables du journal ont été arrêtés en parallèle d'une vaste perquisition dans leurs locaux, la deuxième en moins d'1 an. 2 millions d'actifs ont également été gelés. On rappelle que le fondateur du journal, l'homme d'affaires Jimmy Lai, est lui aussi déjà en prison. Les détails avec notre correspondante Florence de Chanzy.
L'opération contre le Apple Daily, qui a démarré vers 6h du matin, a mobilisé près de 500 hommes, a indiqué la police. Les 5 principaux responsables du Apple Daily ont été interpellés chez eux. Leurs résidences ont été perquisitionnées. Au même moment, des dizaines de fourgons de police ont entouré le siège du journal et de son imprimerie. Des centaines de policiers ont débarqué dans les étages. Des ordinateurs, des téléphones, du matériel professionnel, des caisses de documents ont été confisqués. L'immeuble du Apple Daily a été déclaré scène de crime. La police a interdit aux journalistes l'accès à leur bureau. La police a également indiqué avoir gelé les comptes bancaires du journal, ce qui devrait l'empêcher de fonctionner à très courte échéance. Cette opération que la police a justifiée en citant une trentaine d'articles qui auraient enfreint la nouvelle loi draconienne de sécurité nationale illustre surtout la détermination des autorités à museler le Apple Daily, le média le plus hostile au pouvoir central chinois. Hong Kong, Florence Dechangy, France Inter.
Ça, c'est pour ce qui se passe en Chine sur Terre, mais le pays a plutôt les yeux tournés vers le ciel aujourd'hui. 6 heures après son lancement, un vaisseau chinois transportant 3 taïkonautes s'est arrimé en fin de matinée à la station spatiale que Pékin est en train d'assembler, actuellement en orbite. C'est le premier vol habité pour la Chine depuis près de 5 ans et les 3 astronautes doivent séjourner 3 mois dans l'espace. Et puis on termine avec cette bonne nouvelle pour ceux qui attendent fébrilement les JO de Tokyo. Alors pas trop fébrilement, quand même, c'est mal vu en période de pandémie. Mais le Japon a annoncé la fin de l'état d'urgence sanitaire ce dimanche dans plusieurs régions japonaises, dont celle de Tokyo justement, ce qui devrait faciliter l'organisation des épreuves olympiques. Des restrictions restent toutefois maintenues, ce qui devrait limiter, comme prévu, la présence d'un public local lors des Jeux olympiques. On rappelle que ces Jeux doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août prochain après un report historique l'an dernier.
Merci Olivier Bénis pour ce journal en direct de Paris, le 13-14 au Creusot jusqu'à 14h. Il fait 28 degrés ici. La chaleur retombe un peu, mais elle reste pesante. Voyons le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le programme du jour, c'est chaleur à l'est, orage à l'ouest. Il y a 18 départements en vigilance orange.
Oui, on a le Rhône en vigilance orange pour la canicule et 17 départements pour des orages sur un grand quart sud-ouest des Pyrénées vers les Deux-Sèvres et la Vienne. Alors du sud-ouest vers la Vendée, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, jusqu'au nord pour ce soir. C'est un temps vraiment agité qui s'installe avec des orages parfois forts, très pluvieux, de la grêle, des rafales de vent attendues également. L'accalmie, elle, sera attendue seulement en cours de nuit prochaine. En allant vers l'est, c'est encore bien ensoleillé avec parfois une ondée du côté du massif centrale, quelques orages possibles sur les Alpes et puis encore de fortes chaleurs dans l'Est. 34 degrés à Metz, au Creusot, à Lyon, 35 à Strasbourg et à Grenoble. Ça baisse un peu en allant vers l'Ouest. 31 degrés à Paris, 30 à Montauban, 24 à La Rochelle, 22 à Caen, à Biarritz et 18 à Brest.
34 cet après-midi au Creusot, donc manche courte de rigueur. C'est là que nous sommes jusqu'à 14h pour parler des élections régionales, parler de politique sur le terrain. Nous sommes installés sur la scène nationale de l'Arc, enfin dans l'enceinte du bâtiment, et nous vous retrouvons dans quelques minutes.
À Mayotte, les dimanches 20 et 27 juin, rendez-vous pour voter et élire les conseillers de l'Assemblée plénière du Conseil départemental de Mayotte.
L'Assemblée de Mayotte exerce à la fois les compétences des régions et des départements.
Elle agit sur le développement économique, le transport, l'environnement, la santé, la culture.
L'Assemblée de Mayotte peut financer le Fonds de solidarité pour le logement, l'entretien des collèges et lycées, les services de sapeurs-pompiers.
Exprimez vos voix par les urnes, dans un bureau de vote ou par procuration, les dimanches 20 et 27 juin.
France Inter M.
La 45e édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, du 22 au 27 juin. Un printemps si spécial qu'il volera quelques jours à l'été. Avec Philippe Catherine, Pomme, Alain Souchon, Sébastien Tellier, Giorgio, l'impératrice. La création, la découverte, l'émergence. Sous le soleil, exactement. Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel, du 22 au 27 juin. Un événement France Inter.
Il est 13h19.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Avantage au Rassemblement National devant la présidente sortante socialiste à égalité avec la droite. Les marcheurs suivent derrière. Voilà l'état des intentions de vote en Bourgogne-Franche-Comté. À 3 jours du premier tour, c'est selon l'Institut de sondage Ipsos Soprasteria, partenaire de Radio France et France Télévisions pour ses régionales. Et le tableau ressemble beaucoup au paysage national, même si dans d'autres régions, les présidents sortants de droite sont mieux placés. Bourgogne-Franche-Comté, comme un baromètre de ses régionales, et dans cette ville du Creusot, où même le Premier ministre Jean Jean Castex vient en campagne aujourd'hui. Les candidats au micro de France Inter pour aborder des questions qui concernent tout le pays. Et pour m'accompagner jusqu'à 14h, Benoît Montagioni qui suit la campagne pour le journal de Saône-et-Loire. Rebonjour Benoît.
Bonjour Benoît.
On parlait à 13h du très fort risque d'abstention dimanche, qui concerne d'ailleurs toute la France. Hier, en arrivant ici au Creusot, discussion avec la première personne rencontrée. Est-ce que vous allez voter dimanche? Ah bon, il y a des élections dimanche. Comme si, pour une bonne partie des citoyens, la vie politique démocratique appartenait à un autre monde, loin du leur. Parole d'abstentionniste dans la Nièvre, au micro d'Antoine Gignot. Il s'appelle Thomas, il est pharmacien.
Le vrai problème pour moi, c'est qu'on ne sait pas à quoi sert la région. On ne nous dit pas à quoi nous sert la région, d'autant plus maintenant que c'est une région avec 8 ou 9 départements. Et nous, la Nièvre, étant complètement à l'opposé de Besançon, et déjà qu'on était à l'opposé de Dijon, on est complètement dépourvu d'action régionale complètement. Mais aujourd'hui, c'est un choix. Aujourd'hui, c'est un choix de personne, c'est même plus un choix de programme.
Voilà, c'est 8 départements hein, précisément pour la Bourgogne-Franche-Comté. Première candidate à la table du 13-14, Marie-Guide Dufay, socialiste, présidente sortante de la région Bourgogne-Franche-Comté. Quelques mots pour la présenter, Benoît Montagioni.
Marie-Guide Dufay, vous l'avez dit, c'est la sortante. Avant d'être présidente de la BFC, la Bourgogne-Franche-Comté, elle était présidente de Franche-Comté. Pour cette campagne, elle s'est alliée dès le premier tour avec le Parti communiste français et avec le PRG.
Les radicaux.
Elle veut faire campagne à gauche. Elle envoie déjà des signaux aux autres liste de gauche, mais ses adversaires lui rappellent qu'en 2017, Marie-Guide Dufay a dit et a voté Emmanuel Macron et elle l'a annoncé. C'est un boulet qu'elle doit parfois traîner avec ses amis, mais elle va nous le dire, elle a décidé de marquer sa campagne à gauche.
Bonjour Marie-Guide Dufay.
Bonjour, je vous rassure, pas de boulet, hein, je ne traîne aucun boulet.
Pas de boulet, bon, on détaillera cela. D'abord, ce que disait cet électeur à propos de la grande région, utile ou pas cette grande région, 6 ans après?
Elle est utile pour aller chercher des fonds européens que nous n'aurions pas pu aller capter pour des gros projets de recherche et d'innovation parce que nous n'avions pas la taille critique. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas comparer ces grandes régions aux grandes régions d'Allemagne ou d'Italie.
2 milliards pour votre budget, 38 milliards pour la Bavière.
Donc le système institutionnel est un système centralisé dans lequel effectivement nous sommes absolument des nains. Bon, néanmoins, dans cette grande région, nous avons fait en sorte que nous soyons le premier investisseur public. Nous avons largement déployé des efforts sur tous les territoires ruraux comme urbains, avec un souci vraiment d'équilibre et de contractualisation avec tous ces territoires pour amener des politiques de soutien à l'éducation, de soutien à l'aménagement du territoire, de soutien économique adapté aux spécificités, soit rurales, soit urbaine.
Hôtel de région à Besançon, mais assemblée du conseil régional à Dijon. Les directions régionales sont réparties dans les deux villes. Est-ce que vous avez trouvé une organisation? Est-ce qu'au moins il y a ça d'acquis désormais? Elle fonctionne, disons-le comme ça.
C'est une organisation administrative. Ce qui compte, moi, c'est surtout ce qu'on fait pour le développement économique, c'est-à-dire pour le développement des emplois. Aujourd'hui, nous avons une agence régionale, Bourgogne-Franche-Comté, qui va chercher des investisseurs extérieurs. Et nous, qui sommes une des plus petites région de France. Nous sommes la 6e région en Europe pour l'attractivité vis-à-vis des entreprises qui viennent s'installer sur notre territoire parce que notre territoire, qui est un grand territoire industriel, qui a souffert, qui continue à souffrir, il a néanmoins une ADN industrielle. Un des cœurs de cet ADN, il est ici au Creusot. Hein. Oui. Ça veut dire qu'il y a de la compétence, qu'il y a du savoir-faire, qu'il y a de la recherche, qu'il y a des écosystèmes au niveau économique et industriel qui fonctionnent. Et ça, les investisseurs, ils le savent. Et c'est notre travail de le faire savoir.
Vous dites on a moins de moyens que des régions européennes, mais je les mobilise. Parlons politique, 4 listes sur 7 se revendiquent de la gauche, 4 listes sur 7, la gauche complètement éclatée. Est-ce que vous saisissez que c'est totalement incompréhensible pour les électeurs?
Absolument, j'ai commencé le rassemblement, j'aurais voulu qu'il aille beaucoup plus loin. Je l'ai commencé avec le parti radical de gauche et avec le parti communiste, avec beaucoup de membres qui viennent aussi de la société civile, hein, qui ne sont pas encartés. J'aurais voulu, j'ai vraiment beaucoup essayé. Nos alliés naturels que sont les écologistes le savent. Ils ont voulu, ils le disent, ils ont voulu se compter pour le premier tour. La perspective de la présidentielle dans un an, elle est dans tous les esprits.
Et Bastien Faudeau aussi qui dirige la tête de liste le temps des cerises, qui est tête de liste le temps des cerises avec la France insoumise en particulier. Il est ici au micro d'Élodie Forêt et ce qu'il dit vous concerne.
On considère que la gauche a trop longtemps abandonné les zones rurales, les petites villes, cette France des sous-préfectures. Il n'est plus question pour nous d'abandonner ces zones rurales au Front National. Macron est l'homme de la liquidation d'Alstom. Marie-Guide Buffet a relayé les politiques de l'État. Non seulement elle a soutenu Macron dès le premier tour en 2017, lors même qu'elle était adhérente du Parti Socialiste, mais en plus, elle a soutenu, par exemple, la réforme ferroviaire, elle a soutenu encore l'an dernier la réforme des retraites. Après, les gauches ont vocation à fusionner au second tour, à condition toutefois qu'elles soient sur une démarche d'imperméabilité totale à l'égard de la Macronie. Il faut une gauche conséquente, une gauche qui fait de la relocalisation de l'économie et de l'égalité territoriale sa feuille de route. Voilà.
Il dit imperméabilité totale à l'égard de la Macronie. Il y a deux gauches irréconciliables.
Il dit aussi relocalisation et attention à tous les territoires ruraux. On est en plein là-dedans. Je pense qu'il faut centrer les débats sur l'actualité régionale, sur les réalités régionales. On fait quoi dans nos politiques régionales pour pousser le développement économique alors qu'on se relève à peine des grandes restructurations industrielles? On fait quoi pour faire en sorte que les territoires ruraux trouvent en eux-mêmes les ressources dont ils ont besoin pour rebondir, et ils en ont plein?
D'accord, la politique c'est aussi de l'idéologie. Il vous dit, elle est allée avec Macron, je n'en veux pas.
Oui, il le dit, mais c'est pour moi pas du tout un boulet.
Benoît.
Est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection de 2017? On sait qu'en 2017, on ne savait pas encore ce qu'était Emmanuel Macron. C'était un peu un ovni politique qui venait de la
gauche. Et votre candidat, théoriquement, c'était Benoît Hamon.
Mon candidat, c'était Benoît Hamon. Je ne m'y retrouvais pas. Je me retrouvais dans le livre d'Emmanuel Macron, que je ne connaissais pas plus que ça, son livre Révolution, où il y a au moins deux chapitres sur la sécurisation professionnelle des salariés et sur la formation levier de protection des salariés. Et pour cela, ça rejoignait complètement l'essence des politiques que j'ai toujours voulu mettre en place à la région. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, je ne suis pas déçue. Il y a plein de pans de l'activité du président de la République qui me déçoivent. Beaucoup. Hein. Il y en a d'autres qui ne me déçoivent pas, parce que sur la formation, il a vraiment tenu ses engagements.
Éclairage sur un point du programme avec un son d'électeur au micro d'Antoine Gignot. La jeunesse, le nombre de jeunes s'inscrivant à Pôle emploi a grimpé de 35% en Bourgogne-Franche-Comté en un an. Et pour les jeunes ruraux, il y a l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Écoutez Timothée, il habite Corbigny dans la Nièvre.
Moi j'ai 17 ans, j'ai 18 en un mois. Là, rien à faire ici et on s'ennuie tous. Là, pas d'activité ou... Même je cherche un apprentissage depuis 5 ans ici, je ne l'ai toujours pas trouvé. Et chaque année, on repostule, on ne sait jamais. Pour le travail d'été, c'est toujours les mêmes jeunes qui sont tout en prix, c'est toujours les mêmes. Moi, dès que j'ai le permis, dès que je trouve un travail ailleurs, je pars directement.
Voilà Marie-Guide Dufay. Alors, il nous reste 1 minute 15, on est très attentif au temps de parole dans cette émission. Pour les jeunes, plateforme régionale de stage, école de la deuxième chance, dotation en installation pour les jeunes agriculteurs, carte avantage jeunes, je vous laisse 1 minute pour défendre une de ces mesures.
Je sais pas. Sur les jeunes, ce que je veux absolument, c'est que les formations que nous mettons en place soient adaptées aux métiers de demain. Et on commence dans les lycées professionnels qui sont des vraies vitrines pour les métiers d'aujourd'hui et les métiers de demain. Réconcilier notre jeunesse avec les métiers industriels, les métiers techniques, les métiers manuels, c'est extrêmement important. Nous le faisons dans les lycées professionnels.
Et concrètement, comment on fait?
Dans les lycées professionnels, c'est investir dans les lycées, c'est les moderniser, c'est fournir tous les équipements dont ils ont besoin, c'est travailler massivement sur l'orientation, leur faire comprendre que, par exemple, dans l'industrie, ici au Creusot, il y a possibilité de faire carrière dans ces métiers-là. Mmh. Et comment faciliter la venue des entreprises dans les lycées? Offrir des outils modernes aux jeunes, des outils numériques pour qu'ils plongent dans la réalité des métiers de demain avec des casques virtuels. On le fait de plus en plus dans les lycées pour qu'ils connaissent la réalité des métiers de demain.
Merci Marie-Guette Dufay d'être venue au micro du 13-14. Et pendant que celui que les intentions de vote place en tête au premier tour, le candidat du Rassemblement National, Julien Odoul, est en train de s'installer à la table du 13-14. Parole à une autre candidate, Claire Rocher, pour Lutte Ouvrière. Elle a 41 ans, elle est infirmière au CHU de Dijon et pendant ces longs mois de crise sanitaire, elle a travaillé au service de réanimation.
Je me présente pour faire entendre le camp des travailleurs dans cette élection. Les ouvriers, les caissières, les infirmières, les éboueurs, tous ceux qui ont permis finalement de faire fonctionner la société malgré la pandémie. Et quand on regarde tous les plans de relance, là, les régions ont chacune donné 500 millions d'euros à l'État au titre du plan de relance. Tout cet argent, finalement, il sert même pas à préserver des emplois. Il se retrouve dans la spéculation boursière parce que c'est ce qui leur rapporte.
L'électorat RN, est-ce que vous essayez de leur parler ?
Non, mais surtout, il y a une espèce de course sur le thème de la sécurité qui joue sur la peur des gens. Vous savez, on est dans une période qui génère beaucoup d'angoisse et c'est facile de dévier les vrais problèmes sur ce thème-là.
Claire Rocher pour Lutte Ouvrière au micro d'Élodie Forêt qui ouvre un sujet de discussion avec notre nouvel invité Julien Odoul, candidat du Rassemblement National. Benoît Montagioni, quelques mots pour présenter Julien Odoul.
Alors Julien Odoul, c'est un Iconé, il vient de Lyon, donc conseiller régional sortant. C'est lui qui préside le groupe aujourd'hui du Rassemblement National à la région. C'était pas le cas au début, il a repris un groupe qui a un peu explosé. Et puis Julien Odoul, c'est le candidat qui s'est fait remarquer. Il y a eu cette affaire de cette maman d'élève voilée dans l'enceinte de l'hémicycle. Il s'en était indigné, Julien Odoul. Julien Odoul, c'est celui qui a des chances de gagner. C'est ce que les sondages disent. C'est pas forcément le candidat préféré de Marine Le Pen, mais c'est celui qui balaye le terrain et qui a réussi à imposer son visage en Bourgogne-Franche-Comté.
Bonjour Julien Odoul.
Bonjour.
Campagne sur le thème de la sécurité, comme beaucoup de candidats du Rassemblement National. Vous savez ce que je vais vous dire, c'est pas une compétence régionale. Alors, je doute pas qu'il y a des moyens, quand on est président de région, pour jouer sur la sécurité tout de même. Faire de cette campagne le thème numéro un alors que les moyens sont quand même limités, est-ce que c'est pas tromper les électeurs ?
C'est pas le thème numéro un, c'est la priorité de nos compatriotes. Tous les
Donc
jours,
le thème numéro un.
Tous les jours, aujourd'hui, ils nous demandent plus de sécurité.
Oui.
Plus de sécurité à la fois, évidemment, pour lutter contre la délinquance, la criminalité, la violence qui s'est installée un peu partout, en Bourgogne-Franche-Comté et ailleurs. Sécurité aussi pour l'emploi, parce qu'il y a aujourd'hui une insécurité sociale, une insécurité liée au chômage. On le voit avec des plans sociaux qui se multiplient dans la région. Sécurité aussi environnementale, sécurité alimentaire. Il y a un besoin de sécurité.
Mais sur, alors moi sur j'entends... sécurité, délinquance, Julien.
Oui, 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 tout à fait.
Vous savez, voilà, que les moyens à la région sont limités.
Ils sont pas limités. Ils sont limités pour ceux qui ne veulent pas.
Ils sont limités en termes de compétences.
Non, pas du tout, c'est faux. Pour ceux qui ne veulent pas en parler. Vous savez, la santé, avant, n'était pas une compétence régionale. Avant la crise sanitaire. Mmh. Avec la crise sanitaire, on a bien vu que les collectivités, la région, ont fait de la santé une compétence régionale et personne ne s'en offusque et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, la région ne peut pas se défausser. Il y a un impératif de sécurité qui est demandé par tout le monde.
Encore une fois, c'est en tête des préoccupations dans tous les sondages.
Qui est demandé parce que la situation est extrêmement grave et les leviers de la région sont énormes. Je rappelle juste qu'on a une collectivité qui pèse 2 milliards d'euros et qui peut, avec ses budgets, qui peut, avec son intervention, qui peut être de la volonté politique. Parce que ce qui manque aujourd'hui, pourquoi vous avez certains qui nous disent on peut rien faire ? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique.
Parce que la police est nationale, parce que la gendarmerie est nationale.
Mais, excusez-moi, mais toutes les collectivités aujourd'hui ont un impératif de sécurité, que ce soit le département, que ce soit la commune et que ce soit la région qui doit s'en emparer.
Sur les chiffres, Bourgogne-Franche-Comté, dans l'excellent journal de Saône-et-Loire que représente ici Benoît Montagioni, homicide, Bourgogne-Franche-Comté, quatrième région la plus sûre, vol violent sans armes, vol avec violence, les taux les plus faibles de France avec la Corse. Il n'y a pas le feu à la région.
Oui, ça c'est le sentiment d'insécurité.
Non, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Attendez,
c'est les chiffres du ministère.
Moi, je vous donne d'autres chiffres, je vous donne d'autres
réalités.
Moi, je
vous donne ceux du ministère de l'Intérieur qui ne sont pas spécialement des laxistes.
Dans le journal de Saône-et-Loire, comme dans toute la presse quotidienne régionale, vous avez toutes les semaines des émeutes urbaines. Toutes les semaines, vous avez des faits divers. Toutes les semaines, vous avez des agressions.
Mais il y a aussi ces chiffres.
Toutes les semaines, vous avez aujourd'hui des actes d'ensauvagement qui sont intolérables. Et toutes les semaines, vous avez des bourguignons et des franc-comtois qui sont menacés dans leur quotidien, qui sont menacés quand ils prennent les transports, ils sont menacés dans l'espace.
Il n'y a pas le feu à la région.
Mais très, très bien s'il n'y a pas le feu pour vous. Moi, encore une fois, c'est la priorité que je veux mettre en œuvre parce que la situation est extrêmement grave. Voilà. Et je pense que la région peut être un bouclier. À la fois un bouclier pour la protection des biens et des personnes et à la fois un bouclier social pour éviter les plans sociaux, pour éviter les délocalisations, pour éviter que notre région devienne un désert industriel.
Alors, vous n'avez pas une campagne facile, c'est le moins qu'on puisse dire.
Campagne n'est facile.
Ouais, celle-ci est particulièrement difficile. Enregistrement, vous faites une plaisanterie de mauvais goût sur le suicide des agriculteurs.
C'est faux, monsieur. On va rectifier les
Comment
choses.
Comment ça, c'est faux ?
C'est la justice qui tranchera.
Bon, c'est la justice qui tranchera.
Et vous savez,
il existe l'enregistrement. On peut l'écouter.
Très bien. C'est pas la question de l'enregistrement.
Vous avez reparlé aux agriculteurs depuis, d'ailleurs.
Bien sûr, j'ai rencontré des agriculteurs, j'ai rencontré des éleveurs et tout se passe très bien.
Okay.
Vous savez, les agriculteurs, comme nos électeurs, ne sont pas dupes. On a eu une campagne de boules puantes, on a eu un bombardement qui était cherché à affaiblir le Rassemblement
national. Ce qui est intéressant, c'est que Benoît Montagioni peut en témoigner, et au niveau de la presse nationale également. Ça vient de votre propre camp. D'habitude, c'est les adversaires qui envoient ce genre de documents à la presse. Là, ça vient de votre propre camp.
Non, c'est vrai que toutes les vidéos, tous les sons qui ont été diffusés ici ou là, tous les journalistes de bande gouverne Franche-Comté les ont reçus. Et évidemment, on ne dévoile pas nos sources, mais ce sont des gens qui sont proches de vous. Ce sont des gens qui étaient parfois assis à côté de vous au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
La vidéo, c'est la vidéo de jeunesse où vous faisiez un striptease que vous assumez très bien. Donc, on ne va pas faire la demi-heure là-dessus. Mais ça vient de chez vous. C'est comme ça que ça filtre.
Oui, mais vous savez, quand vous êtes un responsable politique, vous prenez des coups, y compris dans votre propre camp. C'est pas propre au Rassemblement national. On a vu des trahisons dans d'autres camps. Ouais. On voit qu'il y a des personnes aussi qui sont frustrées et aigries parce qu'elles n'ont pas été réinvesties. Parce qu'il faut savoir quand même. Il faut être honnête de le dire. Toutes ces attaques, toutes ces critiques, elles viennent après les investitures. Ces personnes-là n'avaient rien à dire. Et d'ailleurs, l'enregistrement dont vous parlez, il date d'il y a 2 ans. Voilà. Donc les personnes, à l'époque, ouais, ne l'avaient pas diffusé, tout simplement, parce qu'elles souhaitaient être réinvesties. Moi, je ne m'intéresse pas à ces considérations qui, encore une fois, n'intéressent personne. Voilà. Aujourd'hui, la priorité, c'est comment on va gagner la région et comment on va empêcher la gauche de diriger 6 années de plus la Bourgogne-Franche-Comté.
Ça pose juste la question de... Vous savez bien que vous êtes en position, peut-être, de diriger la région et qu'il y a une vraie question sur est-ce que le Rassemblement national peut occuper le pouvoir, est-ce la crédibilité à gérer une région. Vous allez arriver avec une équipe divisée.
Non, j'ai une équipe aujourd'hui qui fait campagne avec moi, j'ai une équipe avec des compétences, avec Olivier Damien en Saône-et-Loire qui est ancien commissaire divisionnaire, avec...
Il n'y a pas de fracture Rassemblement National en Bourgogne.
Avec Dominique Bourgois qui est ancien administrateur du MEDEF, ancien président d'Action Logement au niveau régional, avec des agriculteurs, avec des artisans.
Bon, vous dites j'aurai le groupe pour diriger la région.
On a évidemment l'équipe pour diriger la région et pour la sortir aujourd'hui de la situation dans laquelle nous sommes, qui est extrêmement grave d'un point de vue social. On a 245 000 chômeurs, on a 400 000 pauvres. Ça, c'est le bilan de la gauche. 17 années de gauche à la région, c'est quoi? C'est une Bourgogne-Franche-Comté qui est la région la moins attractive de France. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on change? Aujourd'hui, ma liste est la seule qui peut changer cette situation. Donc il faut se rassembler et surtout, il faut être efficace dimanche dans les urnes.
Les éoliennes, on peut les démanteler carrément?
Bien sûr.
Comment?
Bien sûr, avec des recours. Vous savez ce qui s'est passé dans le département de l'Hérault?
Je vois déjà l'autre candidat, Gilles Platré, qui s'installe et qui fait non de la tête.
Oui, mais
on va pas faire de débat. On va pas faire de débat.
Combien ça coûterait, monsieur Odoul, de...
Non, mais attendez, déjà, regardez.
De démanteler des projets privés.
Ça relève des communes et de l'État.
Attendez.
Je vous écoute.
Vous regardez un petit peu la presse, vous regardez dans le département de l'Hérault, une association donc qui avait posé un recours a réussi à faire démanteler des éoliennes. Et moi, c'est ce que je souhaite.
Donc on soutient les associations qui portent plainte.
C'est dans mon projet, c'est-à-dire que la région engagera des recours en soutien des associations qui luttent admirablement donc pour la préservation de nos paysages, notre patrimoine, de notre nature, la biodiversité, pour faire démanteler cette idéologie qui est néfaste, néfaste d'un point de vue évidemment écologique et néfaste d'un point de vue économique parce que c'est l'attractivité de nos territoires.
On s'emballe pas un peu sur les éoliennes? L'Allemagne en a 5 fois plus que nous par kilomètre carré et l'Allemagne n'est pas défigurée.
Les Allemands en ont marre. Les Allemands n'en peuvent plus des éoliennes et on voit que la situation allemande est déplorable. C'est quoi? C'est une pollution qui est 15 fois supérieure à la France. C'est une facture d'électricité qui est 2 fois supérieure.
Parce qu'elle n'a pas le nucléaire, notamment.
Évidemment, puisqu'ils ont refusé le nucléaire en 2011, ce qui est une folie. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est l'énergie la moins coûteuse, la plus sûre, la plus fiable. C'est tout. On a un atout qui est formidable, qu'il faut évidemment développer dans notre pays. Et on a une secte d'Europe Écologie Les Verts.
Une secte,
d'ailleurs,
carrément.
Bien sûr, c'est une secte. Ce sont des fanatiques de la décroissance. Ce sont des fanatiques qui font beaucoup de mal, y compris dans notre région. Et encore une fois, s'il y a cette alliance avec Marie-Guy Dufay et Les Verts, ça en dit long, en tout cas, sur l'avenir à la fois du transport routier, de l'agriculture, de la qualité de vie dans notre région.
Merci Julien Odoul d'être venu au micro de France Inter. Cette émission spéciale régionale en Bourgogne-Franche-Comté avec des questions qui intéressent le pays entier continue. Un nouvel invité s'installe, est installé même à la table du 13-14 ici à l'Arc, la scène nationale du Creusot. C'est le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré. Benoît Montagioni, quelques mots pour présenter le candidat Les Républicains au régional.
Alors oui, Gilles Platré, il est maire de Chalon pour son deuxième mandat. Il a été réélu au premier tour. Il est également vice-président des Républicains au niveau national. Et Gilles Platré, c'est un peu l'anti-muselier en Bourgogne-Franche-Comté. Lui, il fait ses alliances, mais de l'autre côté, il est plutôt allé chercher. Alors, en plus du centre, il a gardé les appareils avec lui. Il a poussé jusque à Debout la France, le mouvement chasse, pêche, nature et tradition qui s'appelle le mouvement de la ruralité, je crois. Et c'est l'homme qui n'hésite pas à aller faire un peu des clashs, des petits coups. Il allait décongeler Antoine Wächter, l'écologiste anti-éolienne, pro-nucléaire.
Voilà. Il fait chaud, on décongèle vite en ce moment. Bonjour Gilles Platret.
Bonjour.
Question au vice-président des Républicains. D'abord, Jean Castex aujourd'hui au Creusot. Depuis ce matin, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur. Le couvre-feu de 23h prend fin dimanche. Les écoles ont très peu fermé en France. On a évité les mesures de restriction fortes redoutées au cœur de l'hiver. Le gouvernement s'en est bien sorti ?
Écoutez, moi je regrette simplement qu'on n'ait pas avancé la date des élections parce qu'on aurait tombé le masque bien avant. Parce qu'à 3 jours du premier tour, la ficelle est un peu grosse. Vous avez d'un côté un Premier ministre qui vous dit « ça y est, tombez le masque, tout va bien, le couvre-feu va être avancé, enfin être retiré bien avant ouais. ».
Et puis vous avez en même temps, on est à moins de 2000 personnes, on a 2000 personnes en réanimation, on n'a jamais été aussi bas en octobre.
On est d'accord, mais je vous dis simplement qu'il y a un calendrier électoral. Il faut vraiment être naïf pour considérer le contraire. Pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur, qui fait les gros bras sur le renvoi des irréguliers en faute, écoutez, tout ça ne trompe pas les Français, et ça c'est l'essentiel, ils sont assez grands pour savoir par eux-mêmes ce qu'ils doivent penser de ce gouvernement.
Benoît Montagnier.
Vous étiez pourtant le premier dans votre ville de Chalon-sur-Saône à dire il faut réouvrir ces fameux commerces qu'on appelle non essentiels. Vous avez quasiment fait barrage contre la décision du préfet en disant à vos commerçants, c'était au deuxième confinement, ça y est, vous pouvez rouvrir. On a l'impression que vous êtes toujours en décalage avec ce que dit le gouvernement, soit il n'est pas assez protecteur, soit il l'est trop.
Opposition de principe, quoi.
Non, je dénonce un calendrier électoral. C'est pas la même chose. En revanche, je réaffirme que c'était la plus grosse des bêtises de condamner un grand nombre de commerces à une espèce de précarité économique alors qu'on n'avait aucun risque, absolument aucun risque en octobre, pas plus qu'un autre moment, de prendre le Covid dans un petit magasin. Donc ça, c'était d'idéologie par le gouvernement, par monsieur le maire, qui essayait de compenser. On aurait pu laisser ces magasins ouverts. C'est ça le danger. Donc je l'ai dénoncé, je regrette absolument pas de l'avoir fait.
Est-ce que la France ne s'en sort pas mieux que redouté tout de même ?
Moi j'attendrai simplement, et d'ailleurs on l'a inscrit dans notre projet pour les régionales, qu'on soit complètement sûr d'être sorti du cycle épidémique. Permettez-moi juste d'être un peu prudent par rapport à ça. Oui. D'autres pays connaissent aujourd'hui des retours de flamme qui, au moins, doivent nous interpeller. Je ne le souhaite pas pour mon pays, mais je veux rester prudent.
La grande région, vous trouvez qu'elle n'a pas trouvé ses marques au fil des 6 années passées ? Est-ce que vous seriez carrément favorable à un retour en arrière?
Ça, c'est uniquement la loi qui pourrait le dire.
Mais vous seriez pour?
Non, nous, on a trouvé une solution intermédiaire. C'est-à-dire que, oui, nous constatons que c'est un échec. Jamais la région n'a été aussi éloignée des habitants et des citoyens. Elle a augmenté les impôts, elle a augmenté ses dépenses de fonctionnement, alors que Madame Dufay et Monsieur Patria, les deux anciens présidents de région de Bourgogne et Franche-Comté d'un côté, étaient les premiers dans le bureau de Monsieur Hollande pour réclamer cette fusion, notamment au nom des économies. Donc ça a été un échec. Nous, ce que nous voulons, et ça serait une première en France, c'est une région décentralisée. C'est-à-dire que les élus de Franche-Comté géreraient les dossiers de Franche-Comté, les élus de Bourgogne géreraient les dossiers de Bourgogne. On se retrouverait en assemblée plénière pour voter le budget et les grandes orientations, mais on ramènerait la région le plus près du terrain et des besoins des citoyens.
Est-ce que ça peut être une position nationale chez les Républicains, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, qui est une gigantesque région, en Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que voilà, ça peut être une proposition nationale?
Et je pense que ça pourrait l'être. Vous savez, on a toujours été le parti de la décentralisation, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs, Benoît Montagnier rappelait mon alliance avec les centristes. C'est aussi une thématique qui leur est particulièrement précieuse, la décentralisation à l'échelle de la région. Vous savez, jusqu'à présent, les régions ont toujours dit à l'État décentralise, décentralise. Est-ce que les régions elles-mêmes pourraient décentraliser? Ça, c'est quelque chose de neuf. Peut-être que ça agitera un peu le débat, mais pour ça, il faut déjà que je sois élu pour le mettre en œuvre.
Sujet de campagne. La mobilité, Thérèse, à Épiry, village de 200 habitants dans la Nièvre.
La mobilité est un vrai sujet ici. Nous avons encore des trains de Corbigny jusque Paris, mais de Corbigny à ici, il n'y a rien. D'ici à Nevers, à part la voiture, vous n'avez aucun moyen de déplacement. Le médecin, nous avons encore des médecins à Corbigny, médecins, pharmaciens, et à partir du moment où il faut voir un spécialiste, c'est Nevers, Auxerre, Avallon ou Autun.
Question, Monsieur Platret, parlez-moi du taxi-rail, qui est une des mesures que vous envisagez pour la mobilité.
Franchement, le témoignage qu'on vient d'entendre, il est vrai pour la Nièvre, et d'ailleurs il pose une double question des transports et de la désertification médicale, vous avez vu, hein, les spécialistes qui s'éloignent des patients, mais il est vrai aussi pour les autres départements. Nous, ce que nous voulons, et j'ai eu un contact avec une entreprise qui travaille sur ce sujet, c'est explorer une nouvelle voie. Sans mauvais jeu de mots, qui serait une voie ferroviaire, mais qui serait aussi la capacité d'avoir un transport à la demande sur rail.
C'est des voitures autonomes, des wagons autonomes.
Elles sont pas électrifiées, donc ça vous coûte beaucoup moins cher, parce qu'électrifier des voies, c'est juste inconséquent sur le plan financier quand il n'y a pas une rentabilité immédiate. Mais elles permettent, notamment sur des voitures à l'hydrogène ou au gaz, d'avoir un système de réservation. C'est des voitures 16 places et qui donc ne fonctionnent que si elles sont réservées. et elles ne s'arrêtent qu'aux gares qui ont été réservées. Ça veut dire concrètement,
c'est comme si vous preniez beaucoup.
En fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on expérimente très rapidement ceci. J'ai eu le patron de la boîte au téléphone.
Ça veut dire ouverture à la conséquence. Ça veut dire ouverture à la concurrence.
Mais ça, c'est une nécessité. C'est la grande erreur de Marie-Guide Dufay et de sa majorité de ne pas avoir, alors que la loi le permettait, ouvert à la concurrence. Mais là, on est bien sur l'exploitation de petites lignes. Je me permets d'insister là-dessus. Ce sont des voitures autonomes, comme vous réserveriez un taxi, mais en gagnant un temps fou par rapport à la route.
Le chronotour, équité de temps de parole. La fonderie MBF Aluminium, décision du tribunal de commerce le 22 juin prochain. La région veut monter au capital avec l'État. C'est une question qui est posée globalement à la droite, qui a plutôt un logiciel libéral. Il faut monter au capital de ces entreprises en difficulté, Gilles Platret.
On est une des régions les plus industrialisées de France et donc la plus soumise aux évolutions technologiques. Donc je réponds oui à la question que vous m'avez posée. Ça ne me choque pas. Je suis d'abord un gaulliste, hein, ne l'oublions jamais. C'est aussi pour ça que l'alliance avec Debout la France ne m'a posé aucun problème, puisque Dupont-Aignan est lui-même un gaulliste.
Donc gaulliste si... qui a fait alliance avec Marine Le Pen, ce qui n'est pas très gaulliste.
Sauf qu'aujourd'hui, vous ne les verrez pas partir tous les deux en vacances ensemble, parce que ce
maintenant,
sont
non,
les
pires ennemis. Mais il y a 5 ans,
écoutez,
oui.
Chacun est responsable de son parcours. En tout cas, moi, ce qui aujourd'hui, le Dupont-Aignan d'aujourd'hui me plaît bien dans la défense des intérêts français. Donc, il faut absolument intervenir sur le capital. En revanche, on va être très clair, il faut regarder l'avenir. On ne pourra pas faire les pompiers constamment. Ça veut dire que la région, demain, doit mettre de l'argent, mais massivement, sur l'industrie 2.0, c'est-à-dire la modernisation de l'outil de production. Sinon, on sera sans cesse en train de courir et finalement, on perdra des emplois. Donc ça, c'est l'enjeu stratégique.
Le Front républicain, est-ce que c'est fini, Gilles Platret?
Je ne sais pas ce que c'est, moi.
Je vous explique. Alors,
dites-moi ce que c'est.
Quand il y a un risque de victoire du Front national, les listes qui sont derrière la deuxième ou la première se retirent pour être le plus sûr possible que le Front national, Rassemblement national, ne l'emporte pas. Est-ce que vous êtes prêt à ça ou est-ce que ça c'est du passé? Question claire.
Je vais vous dire une chose. Primo, mon enjeu n'est pas le matin, le midi, le soir. Oui, ça serait trop simple de lutter contre le Rassemblement national. Deuxièmement, si je me retirais, je donnerai, hélas, la véritable digue contre le Rassemblement national, c'est moi. C'est très clair. Vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez que les électeurs de la droite républicaine votent pour les socialistes? Ils ne le feront pas. C'est ma réponse.
Gilles Platret, merci. Il y a deux candidats que nous n'avons pas encore entendus. Denis Turiot pour La République En Marche, le Modem et Agir, et Stéphanie Mode, Europe Écologie Les Verts et Divers Écolos. Denis Turiot va s'installer à cette table. D'abord au micro de nos confrères de France Bleu, Stéphanie Mode, les éoliennes.
Les éoliennes, ça fait partie de ce qu'on appelle un mix énergétique. Donc c'est un mix énergétique qui permet d'utiliser les énergies renouvelables pour décarboner notre environnement, c'est-à-dire ne plus utiliser les énergies fossiles. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc nous, notre programme est déjà fondé sur la rénovation thermique des bâtiments, que ce soit les bâtiments de la région, les bâtiments tertiaires pour les entreprises, comme aider les particuliers à isoler leur logement. Ce qu'il faut autour de l'éolien, comme autour des énergies renouvelables, c'est impliquer beaucoup plus les citoyens, quand c'est possible, faire même des projets participatifs, donc une énergie très localisée, en concertation avec les territoires et les gens qui y habitent. C'est pas une manne financière, donc ce sont des grands groupes qui viennent poser là des dossiers. Les gens se retrouvent confrontés à une installation dont ils n'étaient même pas au courant. Donc ça, on veut éviter au maximum. Donc l'éolien, oui, en concertation, pas n'importe où, en lien aussi avec les naturalistes pour éviter toutes les problématiques liées à l'environnement. Et puis effectivement, en lien aussi pour que le paysage soit préservé.
Voilà pour les propos de Stéphanie Mode, candidate Europe Écologie Les Verts, au micro de nos confrères de France Bleu. Et Denis Turiot s'est donc installé à la table du 13-14, maire de Nevers, président de l'Aglo, candidat de La République En Marche. Quelques mots pour le présenter, Benoît Montagioni.
Alors vous l'avez dit, il est maire et président d'Aglo, ce dont il est très fier, il le rappelle régulièrement. C'est un marcheur qui s'affirme comme marcheur. C'est quelqu'un qui dit aussi qu'un président de région soutenu par le gouvernement et éventuellement le président de la République, c'est un petit peu plus simple. Et puis Denis Turiot, c'est aussi celui qui a quasiment les clés de l'élection en Bourgogne-Franche-Comté. Sa décision de second tour sera très importante pour la suite.
Et le soutien de Jean Castex aujourd'hui au Creusot pour rappeler à voter pour vous. Bonjour Denis Turiot.
Bonjour à tous.
Et pourtant, à ce stade, le plus probable, c'est que La République En Marche n'emporte aucune région au soir du second tour, le 27 juin. Comment vous expliquez ça?
Rendez-vous le 20 juin. Vous savez, sur le sondage que vous évoquiez, il y a 400 personnes qui se sont exprimées sur 1000. Je trouve que c'est pas très parlant. Donc moi, le vrai sondage,
quand les sondages n'arrangent pas, on les balaye toujours. Il est très probable qu'il n'y ait aucune région La République En Marche. Juste politiquement, comment vous expliquez ça?
Écoutez, d'abord, je rappelle que le mouvement que je représente, qui est bien au-delà de la République en marche, qui est la majorité présidentielle, avec Territoire de Progrès à gauche, avec Agir. La vraie droite, c'est Agir. C'est pas la droite avec Debout la France. J'entendais Jean-François Copé ce matin sur votre chaîne, sur France Inter, qui disait que on ne transigeait pas avec l'extrême droite. Debout la France, c'est le premier ministre de Marine Le Pen s'il est élu.
Ça, c'est l'extrême droite. Pour Gilles Platret, mais ça
oui,
répond pas à ma question.
Transiger. Ben non, mais c'est important. Donc, voilà, j'ai le soutien très affirmé d'Édouard Philippe, qui est quand même très reconnu dans le monde, de la droite progressiste et de la droite modérée. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce monde-là, rassemblés autour de la majorité présidentielle, on existe depuis 4 ans. Des partis en déclin de tous côtés ont du mal à exister eux-mêmes. On a une présidente sortante qui est quasiment pas connue, qui est une des moins connues de France.
Qu'est-ce qui pêche dans l'ancrage local de La République En Marche de Nithuriau ?
D'avoir des élus qui font comme moi, qui vont au charbon, qui soutiennent, qui veulent la réussite de la France, qui veulent la réussite de leur région.
Il en manque.
Vous l'avez dit, les présidents de région auront un rôle très important, ils l'ont déjà, mais avec la relance qui est attendue sur la durée dans certains secteurs, aller dans le courant de la politique gouvernementale,
donc
ça sera du bénéfice pour nos
concitoyens. Il manque des élus locaux de cette nature-là.
Écoutez, je sais pas s'il en manque, il y en a de plus en plus. Nous, on n'a vraiment eu aucun problème à composer nos listes, on a eu beaucoup de volontaires, il a fallu faire du choix, c'est ainsi. Et donc, franchement, c'est pas un souci. Je pense qu'elle est bien ancrée, mais ne demandez pas en 4 ans ce que certains n'arrivent même pas à faire au bout des décennies.
Benoît Montagnini.
Est-ce que vous ferez tout pour avoir des élus au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté? Est-ce que, ma question elle est claire, hein. Est-ce que vous maintiendrez coûte que coûte au second tour?
Premièrement, moi je suis un battant. Donc je vais tout faire pour gagner cette région. Je vais tout faire pour vous faire mentir. Vous allez voir qu'on va pouvoir gagner au moins une région.
Nous, on n'a rien dit, on a juste regardé des intentions de vote qui ne sont que des intentions de vote en effet.
Je vais tout faire pour me maintenir. Je vais tout faire pour que la majorité présidentielle, elle existe au deuxième tour, elle puisse peser et elle puisse gagner. Je suis là pour ça.
Vous dites, je saurais être intelligent. Très jolie formule, ambiguïté quasi mitterrandienne pour un élu de la Nièvre. Ça veut dire quoi?
Être intelligent, ça veut dire réfléchir,
avoir ses objectifs. Ça veut dire quoi dans le cadre des régionales?
Ça veut dire faire tout pour gagner. Et si je ne gagne pas au premier tour, ce qui sera vraisemblable, parce que je suis quelqu'un de raisonnable, Édouard Philippe me qualifie quelqu'un de mesure et de bon sens. Donc je pense que ça rejoint beaucoup de monde et beaucoup de bourguignons franc-comtois. Je ferai tout pour aller au deuxième tour et exister par moi-même au deuxième tour avec tous ceux qui m'entourent.
Pardon, Gilles Platret n'a pas voulu répondre. On fera tout pour éviter que le Rassemblement National emporte cette région, oui ou non? Il y a un moment, c'est quand même un sujet important.
Moi, je dis aux électeurs, allez voter pour nous donner des chances, nous les partis traditionnels, nouveaux aussi, en tout cas les partis dits de valeurs républicaines. Et je pense que Gilles Platret, le problème, c'est qu'il a franchi la ligne avec Debout la France, il n'en est plus un. C'est pas la droite gaulliste et je pense que les gens de droite se retrouveront davantage dans notre candidature. Nous sommes un bouclier républicain. Utilisez le bouclier républicain avant de réfléchir au front républicain. Cette question, je ne me la poserai pas avant le 20 juin au soir.
Ça raconte quelque chose, ce refus de répondre très clairement?
Non, je vous réponds. Je vous réponds. Je compte peser.
Voilà. Au long cours, la Nièvre, depuis le 19e siècle, a perdu 150 000 habitants, en chiffres très ronds, de 350 000 à 200 000. Ça a continué dans les années 2010. Un rapport récent de l'INSEE fait de la Nièvre le dernier avec la Martinique en termes de dynamique de population. Question de fond, question éminemment politique. Comment enrayer cela, Denis Thuriot?
Changer. Moi, j'ai changé à Nevers. J'ai changé à Nevers agglomération. Je vais me servir de ma petite expérience locale pour l'élargir sur une Bourgogne-Franche-Comté qui peine, qui est une des rares régions qui perd la démographie, de l'emploi et de l'économie. Et oui,
Nevers. Alors, vous avez changé,
2018,
mais ça n'a pas enrayé
Habitants. Nevers reprend des habitants. Oui. Plus 300 avant la crise sanitaire. L'agglo reprend des habitants. Le reste du département décline, mais il faut vous poser la question pourquoi. Et j'espère que ça va changer aussi. Je vais pas faire la politique départementale.
Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on change?
Faut changer la façon de voir. Faut être conquérant. Faut être positif. Je n'entends à votre micro depuis tout à l'heure que des gens déclinistes, qui sont contre tout. Faut être positif, faut se battre. Et c'est vrai que le fait aussi de pouvoir dialoguer avec le Premier ministre, avec le chef de l'État, avec les ministres, c'est une façon d'aller chercher des soutiens pour nos habitants, pas pour moi, mais pour nos habitants. Donc c'est ça qui change, c'est une autre façon de voir que de se battre. C'est-à-dire monter la Loire, ça met beaucoup plus de temps que de la descendre. Aller dans le sens du vent, dans le courant, pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est nécessaire, eh bien nos habitants s'en sortiront bien mieux. C'est ça que je veux leur proposer. Et aller faire une politique de proximité. La proximité, je la connais, je suis dans un petit territoire. Vous savez, lever la main au fond de la classe pour être vu, ça prend du temps. Je sais ce que c'est. Eh bien moi, je souhaite m'intéresser à tous les territoires, faire de la proximité. La proximité, ça a un coût, on a sacrifié ce coût, mais la proximité, c'est le coût de la démocratie. On le voit bien aujourd'hui avec les dangers qui pèsent sur nous d'une droite extrême ou d'une extrême droite, dont la majorité des bourguignons franc-comtois ne veulent pas, et ils vont le regretter s'ils font ce choix tous les jours pendant 6 ans.
Question sur les commerces, au micro d'Antoine Gignot.
À réhabiliter les commerces qui sont fermés à l'abandon depuis quelques années, comme celui-là, ou celui-là en face, là-bas qui est à vendre depuis longtemps. Ça fait une image triste pour la rue. Et puis les immeubles, en même temps, les ravalements. Quand on est arrivé là, il y a 10 ans, tout était ouvert. On les a vus partir. Ouais. C'est le manque de clients. Forcément, on les voit s'arrêter, quoi.
Corbigny, comment enrayer ce déclin des commerces? Quel rôle peut jouer le conseil régional de Nithurieux?
Franchement, faut être humble. D'abord, c'est un rôle davantage des communes, des intercommunalités. Exact. Mais si elles sont plus aidées par la région, elles y arriveront. Je le dis humblement, mais en 2018, et Nevers était une des villes les moins dynamiques. Nous avons ouvert plus de commerces en centre-ville que fermés. Arrêtons de vouloir des centres-villes et en même temps des zones périphériques. C'est pas possible dans les deux cas, sauf vraiment à se développer énormément, ce qui n'est pas le cas de la plupart des villes médianes. On a besoin des grandes villes comme Dijon et Besançon, mais on a surtout besoin de la relance de nos territoires médians et de nos territoires ruraux. Donc moi, je le vois à Nevers. Par exemple, j'ai racheté des fonds de commerce pour maîtriser le coût du loyer. J'ai fait des pépinières d'entreprise avec des loyers progressifs. Je suis aidé par Action Cœur de Ville. Petite ville de demain, pour les plus petites villes, la relance des centres-bourgs, tout ça, c'est le gouvernement qui le porte, c'est personne d'autre, c'est pas mes opposants. Donc oui, je compte bien m'inscrire là-dedans et aider les maires, être davantage couple maire, président d'intercommunalité. Je sais ce que c'est et je vous assure que je serai très présent à leur côté. Mes élus régionaux, au bout de mon mandat, on connaîtra leur nom, et y compris celui du président de la région, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Vous êtes l'homme de la République en marche indiscutablement ici. Je voudrais qu'on termine par où on a commencé, l'abstention, le retrait du politique d'une partie des électeurs, pour certains qui ne sont même pas au courant qu'il y a des élections dimanche. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne vont pas voter dimanche ?
Ne pas voter, c'est laisser décider l'autre à votre place. Et on peut aller hurler dans la rue. Après, c'est trop tard. C'est ce qui fait la noblesse de notre démocratie, de pouvoir voter, de pouvoir s'exprimer. À l'heure où les gens étaient parfois contraints, mais c'était pour leur bien. Et on voit que ça réussit. On voit qu'aujourd'hui, on n'arrive à plus porter de masque. C'est pas électoral. C'est parce que la situation va mieux. Quand ça allait moins bien, mais on a pris d'autres mesures. Donc c'est logique. Tant mieux pour nous. On est plus libre. Mais c'est ça la vraie vérité. Alors on leur a infligé des décisions pour leur bien. Bah, qu'ils aillent se prononcer. Qu'ils aillent choisir leurs élus qui décideront pour eux. C'est un drame de pas le faire. C'est un droit que nous avons. C'est le juriste qui vous parle. Utilisons-le. Moi, je dis, je renverse la question à contrario. Si on vous enlève le droit de vote, vous allez réagir comment? Donc, allez voter.
Merci, Denis Thuriot, d'être venu vous aussi au micro de France Inter. Merci, Benoît Montagioni.
Merci, Bruno.
On cite la une du journal de Saône-et-Loire aujourd'hui. Là aussi, question éminemment politique. 18 000 euros pour attirer les futurs médecins au Creusot. La mairie qui met des sous et qui, en échange, leur demande de rester 5 ans dans la ville. Allez, on ne voulait pas quitter le Creusot sans saluer ceux qui nous ont accueillis pour cette émission. L'équipe de la scène nationale de l'Arc. Lorsque nous sommes arrivés hier soir, un spectacle qui doit être présenté l'année prochaine était en répétition. Vive le déconfinement, les spectacles reprennent peu à peu, jauge des deux tiers pour quelques jours encore, puis 100% après le 30 juin. La directrice de l'Arc, Cécile Bertin, nous a dit quelques mots enthousiastes de cette reprise et du rôle que joue une scène nationale comme l'Arc pour injecter encore plus de vie dans un département comme la Saône-et-Loire.
On a accueilli l'orchestre Victor Hugo de Bourgogne-Franche-Comté le week-end dernier. Et vraiment, là, on sentait que cette musique qui remplissait enfin la salle était un véritable bonheur. Enfin, je pense qu'on a été plusieurs à sentir les poils se dresser et à se rendre compte que les voisins partageaient exactement la même chose.
Alors là, on est dans la régie lumière du petit théâtre de l'Arc. Il y a un spectacle, il y a des répétitions tout près. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, puisqu'on a passé l'émission à parler des régionales, ça a un impact pour vous, la campagne des régionales? Est-ce que la région finance? Quel impact ça a pour vous?
La région, en effet, est le troisième financeur de la scène nationale pour nous ici. Avec, en échange de ces subventions, nous avons des missions d'irrigation du territoire, de soutien aux compagnies artistiques régionales. Et nous sommes aussi dans un maillage avec d'autres structures culturelles de la région, de façon à ce que l'identité puisse naître de notre joli territoire également.
À propos de cela, on a commencé cette émission avec le témoignage d'un jeune adulte, il a 18 ans. Alors c'est pas au Creusot, mais c'est une ville équivalente. Et il dit, j'attends qu'une chose, c'est de partir. Il n'y a rien à faire ici. Vous, quel rôle vous jouez pour ces gens-là?
Ben nous, on essaie de leur dire qu'en effet, chez eux, il y a beaucoup plus de choses qu'ils ne le croient. Mmh. Et le projet de la scène nationale est tourné vers la jeunesse. Mmh. Les spectacles peuvent venir d'ailleurs et ouvrir un petit peu de perspective aussi sur cet endroit qui, en effet, peut sembler être un petit peu perdu au milieu de nulle part et où, en fait, il se passe énormément de choses. Si tant est qu'on ait envie d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a juste à côté de soi.
C'est intéressant parce qu'à votre poste, vous faites plein de territoires différents. Vous êtes passé par Dieppe, vous êtes passé par la Mayenne. Ces territoires-là, quel rôle joue la culture ?
Alors en effet, oui, vous avez cité quelques-uns des territoires sur lesquels j'ai travaillé, et à chaque fois que j'y suis allée, c'était parce que il y a a priori un peu moins de d'offres culturelles, et de fait des gens qui pourraient sembler moins curieux ou plus frileux pour aller dans ces dans la découverte de nouvelles disciplines, de la création contemporaine qui peut faire peur présentée ainsi. Et en fait, tout le travail sur ces territoires-là, c'était de légitimer ce regard, de légitimer l'envie et de permettre aux gens de s'autoriser à être curieux et à se dire ben oui, c'est pas parce qu'on se retrouve dans une commune de 12 000 habitants que un spectacle ne viendrait pas chez nous alors qu'il a tourné à Paris auparavant ou qu'il est né à Berlin. Enfin, l'idée est vraiment de travailler sur cette ouverture culturelle.
Hier, le Premier ministre a annoncé que le couvre-feu à partir de dimanche, c'était fini. Petit à petit, les dates de déconfinement avancent les unes après les autres. Est-ce que vous retrouvez le moral ?
En tout cas, on a un appétit assez féroce pour retrouver le public. Et en effet, ça déclenche chez nous tout d'un coup c'est comme une nouvelle éclosion. Alors on est un petit peu en retard par rapport au printemps, mais du coup on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver, que les senteurs se mélangent à nouveau et qu'on arrive à enfin repartager des moments. L'idée, c'est vraiment de se retrouver et de se reparler et de se remélanger.
Cécile Bertin, la directrice de l'Arc, qui nous a accueillis aujourd'hui. Le spectacle qui était en répétition hier s'appelle En pleine France. Il explore les relations entre France et Algérie à travers le football. C'est d'actualité. Création de Marion Aubert et Kérénine Larjam à l'affiche l'année prochaine à l'Arc dans la série Sport et Vie. Ici au Creusot, on attend le Tour de France dans la ville. Le Creusot sera étape d'arrivée le 2 juillet. Et ce 13-14 arrive à sa fin dans un instant. La Terre au carré, bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno, bonjour amis du Creusot.
Quel est le programme Mathieu ?
On va parler des chercheurs qui s'intéressent à leur empreinte carbone.
Oui, on n'a pas encore retrouvé le public, mais la prochaine fois que vous direz bonjour amis de, je suis sûr qu'il y aura des applaudissements.
Oui, j'ai tellement envie, ça me manque.
La pub.